Serge Triboulet, deuxième partie, où là je vais un petit peu ramasser tout ce que vous m'avez mis sur la table. Vous avez dit tellement de choses
Oui,
passionnantes
oui.
que j'aimerais y revenir un petit peu. Déjà, vous m'avez parlé de la pensée, on se disait est-ce que quand on pense, on est ou
Oui,
pas, et on en est un peu resté en suspens là-dessus. Ça me faisait penser, c'est écrit dans le livre hein, de Bien réel, le surnaturel chez Alphée, avec Marc Menant. Vous précisez, c'est vrai que pour les Grecs, ce coup-ci, je ne vais pas me tromper,
Oui.
la pensée ne se situait pas dans la tête.
Oui, bien sûr.
Alors, on continue sur votre discussion sur qui sommes-nous, que sommes-nous,
Oui.
et avec cette histoire de, finalement, ce qui est le plus intéressant, à mon avis, c'est l'esprit que nous avons. Qu'est-ce que c'est?
Vous avez bien mis le doigt sur ce point très important qui est au centre d'ailleurs de ma critique de la
Ça
psychologie.
me fait un point, ça? Est-ce que ça me fait
On
un point?
peut rajouter un point,
Ah,
oui,
merci.
sur la colonne de droite. La chose importante, c'est justement cette critique que j'ai envers la psychologie et puis je dirais la médecine positiviste, c'est qu'elle réduit la pensée à l'ensemble des fonctions cognitives, comme je le disais tout à l'heure, les fonctions de la connaissance. La pensée, c'est la conscience. Voilà, on a conscience du monde qui nous entoure, on a conscience de soi, et cette conscience, c'est la pensée. Ça, c'est depuis Descartes. Et aujourd'hui, ça n'a pas bougé pour la psychologie.
Pour la psychiatrie, alors c'est conscience, subconscient et inconscient, c'est ça?
Oui, tout ça, ça fait partie de plusieurs niveaux de connaissances que l'on a, au niveau de conscience. Bon, effectivement, comme vous le dites, il y a des sous-niveaux. Les sciences cognitives aiment bien hiérarchiser. Alors, c'est des séries de niveaux, c'est des strates à l'infini. Bon, eh bien, pour les Grecs, il y a une grande différence pour un certain nombre de Grecs. Ma thèse en philosophie portait sur Plotin, le dernier des grands philosophes grecs, 3 siècles après Jésus-Christ. Eh bien, pour Plotin, par exemple, dans la lignée de Platon, eh bien, pour Plotin, la pensée n'est pas la conscience. Et je dirais que la pensée est extérieure, justement. On ne peut pas la limiter à une activité cérébrale. Et la conscience est un affaiblissement de la pensée. C'est un affaiblissement de la pensée. Il y a une pensée extérieure. Extérieure dans tous les sens du terme. Même, puisque pour reprendre un peu votre question, c'est extérieur au cerveau. C'est pas dans le cerveau. C'est pas localisé dans le
Alors,
cerveau.
est-ce qu'on peut l'associer aux mots, parce que vous aimez beaucoup
Oui.
les mots et puis vous êtes
Oui,
très
oui,
pointilleux là-dessus,
oui.
est-ce qu'on peut l'associer au mot âme, cette conscience?
Oui, le mot, bien sûr. Alors, l'âme, c'est un niveau. Un niveau, c'est. Non, non. Enfin, attention, la conscience. L'âme est importante. Vous savez, chez Plotin, il y a trois niveaux. Il y a le niveau de la matière, du sensible. Il y a le niveau de l'âme. Et puis, il y a le niveau supérieur qui est l'intellect. Et puis, ensuite, il y a l'inatteignable qui est l'un. Bon, bah, je ne vais pas faire une philosophie de Plotin ici, mais pour rester sur le point que vous avez posé comme question, qui est le siège de la pensée. Effectivement, par exemple, pour Platon, c'est vrai pour Plotin et tant d'autres, il y a plusieurs sièges de l'âme. Il y a plusieurs sièges. Alors, les Grecs disent la psyché, psyché. Bon, il y a plusieurs sièges. Il y a le siège cérébral, qui est pour l'âme rationnelle, la partie rationnelle de l'âme. Il y a le cœur. Et il y a, alors il y a le thymus, etc. Et puis je dirais d'une certaine façon le diaphragme.
Le
Et
souffle,
donc,
alors c'est
oui,
l'amour et le souffle et puis la
voilà,
raison.
exactement, exactement. L'ardeur, le courage, l'affect, l'amour, oui, l'amour, et puis la raison. Bon, donc il y a plusieurs registres. Et puis j'aime bien cette parole de Socrate qui dit que les anciens, vous vous rendez compte, Socrate disait déjà les anciens savaient. Pourquoi il dit les anciens? Parce que du temps de Socrate, c'était déjà un peu perdu. Ça s'oubliait cette affaire. Socrate dit les anciens localisaient la pensée au niveau du diaphragme. Et Socrate, qui aime bien les étymologies qui lui sont très personnelles d'ailleurs, à un moment donné dit le mot diaphragme, dans diaphragme, qui est diaphragma en grec, il y a la racine phre, phr, qui est la racine que l'on retrouve dans le mot phrénie, qui est la pensée. Schizophrénie, ça veut dire la pensée coupée. Bon. Alors le mot phrénie, pensée. Donc pour Socrate, c'est bien le mot diaphragme indique la pensée. Et donc ça, c'est assez intéressant de voir qu'à cette époque, on pouvait considérer la pensée hors du cerveau. Le cerveau y est pour quelque chose
Ben
dans
quand
la.
même, parce qu'ils n'avaient pas d'encéphalogramme.
Oui. Voilà, mais le
Mais
cerveau.
quand on voit les encéphalogrammes, eh ben on voit bien que c'est quand on rêve, c'est le cerveau qui agit,
Bien
enfin, ça
sûr,
bouge.
bien sûr. Mais ce que je dis est vraiment très important là-dessus, c'est que les animaux ont un cerveau aussi. Et quand je parle de la pensée, je parle du strictement humain, la pensée humaine. Je ne parle pas de l'ensemble des fonctions psychiques de la communication. C'est pour ça que quand je parle de la pensée, c'est la pensée strictement humaine. L'homme est un animal, l'homme est un roseau, oui, mais un roseau pensant, hein, dit oui. Pascal. Bon, donc cette pensée, elle est strictement humaine.
Mais qu'est-ce que cette pensée humaine nous dissocie de la pensée des animaux ?
Eh bien, alors revenons dans le domaine de la psychanalyse, puisqu'on était parti de là tout à l'heure. Ce qui nous différencie des animaux, justement, c'est l'inconscient. Pourquoi ? Parce que l'inconscient, qui n'est pas une pensée, mais en restant dans le domaine de la psychanalyse, là on fait un bond d'un registre à l'autre, mais l'inconscient, dit Lacan et Freud bien sûr, ça a à voir avec le langage. Nous sommes humains parce que nous sommes langagiers, ou nous sommes langagiers et donc humains. Nous sommes des êtres de langage.
Hein, c'est-à-dire qu'on communique.
Non, surtout pas. C'est la grande découverte de la psychanalyse, de montrer que le langage, justement là où la psychologie dit le langage ça sert à la communication, eh bien la psychanalyse dit attention, non, la grande partie du langage elle sert pas à la communication.
Alors un point en moins, merci.
Et oui, mais c'est très important pour penser un certain nombre de phénomènes.
Parce que je voulais vous avoir sur le côté communication avec les abeilles qui communiquent entre elles et qui sont des animaux. Je voulais vous avoir là-dessus,
mais
c'est raté.
Mais non, parce que la communication, comme vous le dites, c'est très fort chez les animaux. Les animaux communiquent mieux que les humains. Ils peuvent communiquer sous la mer, à des centaines de kilomètres entre eux, etc.
Par télépathie.
Voilà. Nous, on a besoin d'appareils. On a besoin de la technique. Donc, les animaux, ils communiquent mieux que les humains. Et les animaux, ils n'ont pas de langage.
C'est vrai, ça. Pourquoi ?
Ils n'ont pas de langage. Quand je parle du langage, ouais. Oui, alors je vais peut-être sans doute vite. Ils n'ont pas de langage articulé. Il n'y a pas de signifiant, de signifié. Les animaux, ils ont une communication. Ce qu'on appelle le langage, parce que moi j'appelle le langage dans la tradition lacanienne, c'est justement l'ensemble de ces signifiants, de ces lettres, de cette articulation signifiante. Et donc c'est le code de la linguistique même. Enfin, c'est strictement humain. On peut dire ce que l'on veut. Je ne suis pas en train de rabaisser les animaux. Simplement, je dis qu'entre l'animal et l'homme, il y a une différence et que chez l'homme, il y a quelque chose qui n'est pas réductible à l'animal. Ce n'est pas très à la mode aujourd'hui de dire ça.
Non, ça ne se dit pas. Mais je suis en train de chercher un animal qui pourrait être comme les dauphins, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'écriture pour les animaux.
Oui, il n'y a pas d'écriture. De toute façon, il n'y a pas de langage. Il n'y a pas de langage avec une grammaire, une orthographe. Il n'y a pas de ce langage-là. Il n'y a pas cette articulation conceptuelle.
Même les bonobos.
Alors, il y a des psychologues expérimentaux, il y a des spécialistes des animaux qui, justement, montrent que chez l'animal, il y a un certain nombre de concepts, etc. Oui, mais on ne parle pas du tout de la même chose. C'est ça qui est important. On ne parle pas d'un langage articulé. On ne parle pas de ce qui nous constitue, nous, en tant qu'humains. La psychanalyse dit, c'est parce que l'homme est entré dans le langage qu'il a un inconscient. Et l'inconscient, dit Lacan, est structuré comme un langage. C'est-à-dire, quand on va étudier l'inconscient, on s'aperçoit que les lois qui régissent l'inconscient sont les mêmes lois qui pourraient régir celles d'un langage. Qui pourrait régir un langage.
Ah, c'est qui a dit ça ?
Ben, c'est Lacan.
Oh, bah, du don, il en a dit des choses.
Ah, ben, l'inconscient structuré comme un langage, c'est vraiment la phrase titre de l'œuvre lacanienne. Et c'est aussi une portée géniale, n'en déplaise à Michel Onfray.
Laissons ce pauvre être. Mais ça me fait penser qu'il y a eu une petite copie de Lacan, parce que finalement, la Bible, au commencement, était le Verbe.
Oui. Alors ça, c'est la parole de l'Évangile selon saint Jean. Au commencement était le langage, au commencement était le Verbe. Mais vous le savez, les Évangiles sont écrits en grec. Et ça, c'est très important aussi, parce qu'il y a de nombreuses implications sur ce point. En grec, c'est logos.
Oui.
Logos. Et le mot est beaucoup plus que le... On essaye de le traduire par le verbe avec un V majuscule. Le langage, c'est beaucoup plus que tout ça chez les Grecs. Mais effectivement, au commencement, il y avait quelque chose de l'ordre de cette articulation-là, qui est de type langagière. Sinon, il n'y a pas d'homme. On trouve aussi ça dans d'autres religions. Bon, je ne connais pas assez le Coran pour dire, mais je sais qu'au début, même dans cette religion, au début, il y a ce que l'on appelle la kalam, la plume, où Dieu a écrit sur les tablettes. Voilà, il y a déjà de l'écrit, il y a déjà de l'écriture, il y a déjà du langage. Mais quelles que soient les religions, il faudrait être spécialiste des religions, sans doute, pour repérer ça.
Le bon cato que je suis en profite pour dire, alors c'est le Saint-Esprit ?
Le Saint-Esprit qui serait où alors ?
Le langage, on pourrait l'apparenter au Saint-Esprit. Ce qui nous distingue des animaux, c'est divin ?
C'est pas divin le langage, parce que justement c'est là, c'est ce qui fait la force et la faiblesse de l'homme. C'est-à-dire, ce qui fait sa force, parce que c'est là qu'il est strictement humain, mais la faiblesse de l'homme, elle est portée par l'homme.